Les midis, deuxième partie, c'est parti. Bienvenue si vous nous rejoignez. À 13h, je recevrai la comédienne Nadia Tereskiewicz pour le film Pile ou Face. Mais tout de suite, c'est l'heure du Point Culture avec Marie Sorbier. Bonjour.
Bonjour Marie et bonjour à tous. Alors que ce soit au Havre ou à Abu Dhabi, les muséums d'histoire naturelle se renouvellent et continuent à intéresser le public et les chercheurs. À l'heure où la société s'interroge sur son lien à la nature, sur la place de l'homme et son influence sur son environnement, ces musées se retrouvent au centre des problématiques contemporaines. Et c'est le dossier du Point Culture du jour. Fabienne Galango-Quera, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignante-chercheure, spécialiste en muséologie des sciences de la nature. Vous vous êtes notamment occupée de la Grande Galerie de l'Évolution au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris. Peut-être pour commencer, une question de vocabulaire. Qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui un muséum ?
Un muséum, c'est en français, enfin en France, c'est un établissement qui s'intéresse à la biodiversité, qui est structuré autour de collections d'histoire naturelle, dont les recherches, pour ceux qui peuvent encore faire de la recherche, est organisée autour justement de cette biodiversité, des transformations qu'elle subit du fait des activités humaines. Et c'est aussi un lieu de présentation de ces thématiques, de présentation des collections, selon des thématiques qui ont beaucoup évolué, puisque les muséums, jusque dans les années 60, étaient un petit peu enfermés dans une vision poussiéreuse de la nature, avec des présentations de spécimens les uns à côté des autres, selon la systématique, donc les mammifères avec les mammifères, les oiseaux avec les oiseaux, les reptiles avec les reptiles. Et effectivement, cette présentation a été très très critiqué à partir dans les années 60. En fait, ce qui se passe, c'est que dans les années 60, il y a une sorte de regain d'un mouvement écologique qui a pris sa source dans la littérature romantique, philosophique, politique, etc. Et ce mouvement écologiste va se structurer, va devenir de plus en plus fort et être soutenu par des ouvrages de scientifiques, des ouvrages importants tels que l'ouvrage de Rachel Carson sur le printemps silencieux dans les années 60. Donc il y a une perception de plus en plus forte par la société de problématiques environnementales auxquelles ne répondent pas les muséums d'histoire naturelle.
Mais alors justement, on le comprend bien quand on vous écoute, il y a évidemment aujourd'hui de nouveaux questionnements sur le vivant. Donc quels sont les grands chantiers pour les muséums aujourd'hui ? Est-ce que ces questions environnementales ou par exemple le lien avec les non-humains dont on parle beaucoup aussi ?
Alors en fait, la complexité, c'est que un muséum, c'est lourd, c'est une grosse structure, il y a des tas de choses qu'il faut mettre en route, et ça nécessite pas mal d'argent. Et donc c'est vrai qu'il y a eu un coup de quelque chose qui a électrisé un petit peu les musées dans les années 70-80, avec cette prise de conscience de l'utilité des musées en général. Et dans les muséums, il y a eu de nombreux directeurs d'établissements scientifiques qui décriaient la posture des muséums, alors que eux-mêmes publiaient des articles scientifiques décrivant l'impact de l'homme sur la nature, etc. Et dans les années 80, à la faveur du développement de la culture scientifique et technique et industrielle des années 80, la question des muséums s'est posée de façon cruciale. Sous ces multiples impacts d'une société qui prend conscience de que la nature ne va pas bien avec le développement de l'industrie, de la chimie, etc., avec la prise de conscience que les muséums ne sont pas à la hauteur des enjeux environnementaux, il y a eu un projet qui est celui de la Grande Galerie de l'Évolution, qui a bénéficié un petit peu de tout ça, de toutes ces réflexions, des réflexions qui étaient menées notamment au muséum, en particulier au muséum, et pour créer, dans une ancienne galerie de zoologie qui était elle fermée depuis les années 60, pour créer donc une galerie qui avait pour objectif de parler de l'évolution des espèces et de montrer l'impact de l'homme sur la nature.
Mais là, nous sommes dans les années 90, je voulais juste revenir à aujourd'hui, par exemple, juste prenons la galerie de l'évolution aujourd'hui, quand on passe devant ces spécimens, ces animaux naturalisés, est-ce qu'il y a une façon de les envisager différemment quand on passe, je pense, à un contexte. Est-ce qu'on les traite différemment ? Est-ce qu'on doit les présenter différemment en 2026 ?
En fait, ce qui se passe, c'est que bien sûr qu'on doit les présenter différemment. La muséographie qui a été initiée dans la Grande Galerie de l'Évolution est aujourd'hui très inspirante dans plein de musées à l'étranger. Et donc, elle est aussi inspirante dans la mesure où c'était la première galerie qui parlait de processus, qui montrait l'impact de l'homme sur la nature dans un espace permanent. Donc, pour moi, en fait, la galerie de l'évolution, c'est un petit peu je dirais, la grand-mère des muséums un peu partout dans le monde. Moi, j'ai été, que ce soit sur les thématiques scientifiques qui sont abordées, que ce soit sur la présentation elle-même, avec des présentations qui sont parfois plus immersives, qui provoquent plus la réflexion. L'idée étant de responsabiliser sans culpabiliser. C'est quand même assez compliqué pour les musées. Enfin, c'est quand même une médiation complexe. Et en même temps, les muséums ont des problèmes d'argent. Il faut qu'ils puissent gagner de l'argent puisque les tutelles ne fournissent plus suffisamment. Enfin, on doit être rentable. On parle de la rentabilité des musées. C'est assez terrible parfois d'entendre ça.
Dernière question. Quel sera selon vous le rôle des muséums dans les années à venir? Est-ce qu'on reste sur une idée de sanctuaire ou est-ce qu'on part plutôt vers une agora, un lieu où les discussions peuvent avoir place?
Écoutez, moi, pour avoir travaillé dans des muséums depuis fort longtemps, je dirais qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles, que tout dépend de la posture de l'établissement lui-même. Que ce soit, par exemple, il y a un muséum qui est très intéressant, qui est le muséum de Bourges. Aujourd'hui, il y en a d'autres en France, mais je parle de celui-ci, où justement, il y a une vraie volonté d'initier la réflexion sur la place de l'homme et voir s'il n'y a pas d'autres voies possibles. Donc, oui, je pense qu'on peut avoir des vrais agora, enfin, des vrais espaces où on peut demander aux visiteurs de participer à des réflexions. On peut imaginer plein de choses. Le problème pour certains musées, c'est la complexité de la mise en place de tout ça. Et les muséums sont dans une situation extrêmement complexe. À la fois, ils sont persuadés de leur vocation pour prendre en cause des thématiques scientifiques, les partager. Enfin, quand on discute avec les chercheurs des établissements scientifiques, l'objectif c'est vraiment de non pas d'alerter, mais de partager et de faire venir aussi la société dans le musée, de casser ces murailles qui parfois enferment le musée et l'isole de la société. Cette barrière, elle est de plus en plus franchie. Mais parfois, les gens ne viennent que pour du spectacle, dans des dispositifs immersifs qu'on voit se développer un peu partout, qui sont extrêmement coûteux en énergie. Il y a tout ça aussi qui rentre en compte. La fabrication d'une exposition, ça coûte de l'argent, ça coûte de l'énergie. Donc maintenant, les expositions, en tout cas dans les musées de sciences, se veulent vertueuses, font un énorme effort pour réduire leur consommation de carbone, pour être plus vertueux, tout simplement. Et voilà.
Eh bien, merci beaucoup, Fabienne Gallon-Gauquera.
Je vous remercie.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, on a appris hier la disparition du rappeur Calbo.
Oui, il avait fondé avec son frère Lino le duo Arsenic au début des années 90, même si le groupe n'a sorti que deux albums. Quelques gouttes suffisent en 1998, puis Quelque chose a survécu en 2002. Il est considéré comme l'un des plus importants du rap français. Arsenic a été populaire grâce à sa combinaison habile entre une écriture pointue et des instrumentales très rythmées. Si le duo n'avait plus travaillé ensemble, Calbo avait lui sorti un album solo en 2022, décédé à l'âge de 53 ans, de nombreux hommages lui ont été rendus par les figures du rap notamment.
La BNF vient d'enregistrer un nouveau record de fréquentation.
Oui, bonne nouvelle pour la Bibliothèque nationale de France qui a reçu en 2025 1,7 million de visiteurs sur l'ensemble de ses sites, soit 200 000 visiteurs de plus qu'en 2023. Ces chiffres en hausse font de l'une des bibliothèques les plus fréquentées du monde. Pour rappel, la BNF possède une collection composée de plus de 40 millions de documents.
Et pour finir, Marie, l'Europe a deux nouvelles capitales de la culture.
Comme chaque 1er janvier, les capitales européennes de la culture sont renouvelées. En 2026, ce sera Oulu en Finlande et Trencin en Slovaquie. Fondée au XVIIe siècle, Oulu est la quatrième ville la plus importante de Finlande. Elle lancera sa saison de capitale par un festival pluridisciplinaire débutant le 16 janvier qui mêlera sport, musique, cirque et même du tuning automobile. De son côté, Trencin, ville slovaque de 50 000 habitants, va commencer sa saison le 13 février février par un festival dans les rues de la vieille ville, avec au programme de la littérature, du théâtre et de la mode. Aulu et Trencin succèdent ainsi aux villes de Chemnitz en Allemagne et Nova Gorica en Slovénie. À noter que Bourges sera en 2028 la prochaine ville française, capitale européenne de la culture.
Merci Marie, on se retrouve demain pour de nouvelles actualités culturelles.
À demain.
À demain, en attendant, il est 13h, vous écoutez les Midis de Culture.